Radio Kapi.
Le journal, grâce à Mzati à la présentation.
À la une de l'actualité, manifestation ce lundi devant l'hôtel des villes de Kinshasa des conseillers communaux de la capitale. Ils revendiquent notamment les frais de fonctionnement après 10 mois de service. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans les localités de Kalembe et Kishali, au Nord Kivu. Toute la journée de ce lundi, la tension était perceptible dans cette zone à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale, devenu le théâtre des combats entre le M23 et les groupes armés VDP Wazalendo. L'invité de la rédaction ce soir est le commissaire lacustre à Kalemi, Jean Kiato, revient sur les conditions de navigation sur le lac Tanganyika après des mesures prises par les autorités provinciales pour sécuriser les passagers et prévenir d'éventuels naufrages. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre par ce sit-in des conseillers communaux de la ville de Kinshasa ce lundi devant l'hôtel des villes. Ils réclament une meilleure collaboration avec les bourgmestres actuellement en fonction dans les communes. Les conseillers communaux estiment que la collaboration n'est pas bonne. Ils revendiquent également leurs frais de fonctionnement non perçus jusqu'à ces jours après pratiquement 10 mois de prestations. Patty Kamambu, président du caucus des présidents des conseillers communaux de la ville de Kinshasa, explique ce qu'il en est au micro de Babel Mpongo Massi. Mango.
Nous avons deux revendications. Nous ne sommes pas venus revendiquer les élections de bourgmestre. Nous revendiquons primordialement le respect des cadres de travail entre le bourgmestre nommé autrefois par les décrets-lois et nous, les élus au niveau communal. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a blocage. Le bourgmestre ne veut pas collaborer avec le conseil. Pour Kinshasa, nous avons proposé au président de l'Assemblée provinciale, en collaboration avec le gouverneur, qu'il convoque tous ces bourgmestres et nous, les élus au niveau communal. Ce sont nos autorités provinciaux qui peuvent nous faciliter ce cadre de travail. Deuxièmement, c'est par rapport à nos frais de fonctionnement au niveau du conseil évoqué par le premier ministre par rapport à sa dernière sortie médiatique évoquant que nos frais de fonctionnement de conseillers ont été déjà versés au niveau de l'exécutif provincial. Jusqu'à aujourd'hui, le gouverneur reste inactif par rapport au décaissement de nos frais de fonctionnement.
Pendant ce temps, l'Assemblée nationale a aligné 513 députés au lieu de 500 au mépris de la Constitution, de la loi électorale et de son propre règlement intérieur. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, dénonce une gestion budgétaire de deux chambres du Parlement contraire au règlement financier. En réaction, le bureau de l'Assemblée nationale précise que les 13 députés excédents sont ceux qui étaient invalidés par la Cour constitutionnelle lors de la précédente législature et qui devaient être remis dans leurs droits sur recommandation de l'Union interparlementaire africaine. Michel Kifindangoy.
Dans son monitoring, le Centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL dénonce des allocations budgétaires exagérées en faveur des institutions comme le Parlement. À titre d'exemple, les effectifs décriés par CREFDEL dans le rapport de contrôle publié en mai dernier ont été à nouveau maintenus dans le projet de loi de finances exercice 2025. À cet effet, au lieu des 500 députés nationaux, l'Assemblée nationale a aligné 513. CREFDEL dénonce aussi les crédits alloués au Fonds spécial d'intervention, qui reste la ligne de crédit la plus importante gérée par les deux chambres du Parlement. Elle est chiffrée à un total de 246 millions de dollars. Réagissant sur la question des 513 députés repris dans le projet de finances 2025, le bureau de l'Assemblée nationale explique qu'au cours de la législature passée, un groupe de députés nationaux invalidés injustement par la Cour constitutionnelle avait attaqué la RDC à l'Union interparlementaire africaine. Celle-ci a obligé l'Assemblée nationale de la RDC qui en est membre à le remettre dans leurs droits.
Michel Kifindangoy sur Radio Kapi. Au Kasaï central pendant ce temps, une crise s'observe à l'Assemblée provinciale à la suite des pétitions initiées contre tous les membres du bureau. Ils sont accusés par leurs collègues députés provinciaux de mauvaise gestion. Alors que les initiateurs tenaient à la convocation de la plénière sur cette question, la vice-ministre de l'Intérieur s'est interimposée avec un télégramme pour interdire l'inscription des pétitions à l'ordre du jour. N'est-ce pas, François Kadima?
Ces pétitions initiées depuis le 16 octobre visent notamment Daniel Lukusa, Papé Noël Kankou, Anakli Mouyaya, Jean Mazala et Justin Mangala respectivement, président, vice-président, rapporteur, rapporteur adjoint et caisseur du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï Central. Les pétitionnaires les accusent de détournement de leurs émoluments et de l'incompétence. Selon les règlements intérieurs de l'organe délibérant, une plénière devait être convoquée 48 heures après pour que les incriminés présentent leurs moyens de défense avant de voir la plénière se décider. Dans un télégramme officiel, la vice-ministre de l'Intérieur s'est interposée et a demandé au président de l'Assemblée provinciale d'obtenir l'examen de pétition à une date ultérieure. Mais pour les initiateurs, les membres du bureau doivent se justifier par rapport aux griefs apportés à leur charge. Au bureau de l'Assemblée provinciale, son président a indiqué que 48 heures étant largement dépassées sans convocation d'une plénière, ce débat tombe caduc. Daniel Lukusa invite les députés provinciaux de rester attentifs à la convocation d'une plénière incessamment. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Sécurité, au Nord Kivu, la situation est restée tendue toute la journée de ce lundi dans les localités de Kalembe et Kishali. C'est à cheval entre les territoires de Masisi et Walikale, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Kichanga. La zone a été le théâtre d'affrontements opposant les rebelles du M23 aux groupes armés VDP Wazalendo. Après avoir perdu ces localités en faveur des rebelles du M23 RDF hier dimanche, les combattants des Nduma pour la défense du Congo NDC sont revenus à la charge depuis 10 heures heure locale ce lundi. Certaines sources affirment qu'autour des 15 heures, les combattants de Guidon Mouissa auraient réussi à déloger les rebelles du M23 et à reprendre le contrôle de Kalembe. Toutefois, la zone reste instable, indiquent les mêmes sources. Nord Kivu toujours, au moins 33 autres présumés criminels ont été arrêtés la semaine dernière avec au moins 2 armes et 6 chargeurs garnis. Ce bilan de l'opération dénommée Safi Chamudju à Goma a été fait et présenté à la presse samedi par le maire de la ville. Ceci porte, selon lui, à plus de 200 armes en circulation illégale déjà saisies dans le cadre de cette opération. L'origine de ces armes demeure cependant un mystère. C'est ce que nous dit à Goma Bernard Nyangi.
Un des présumés criminels présenté samedi avec son arme AK-47 reconnaît ici que cette arme lui appartient effectivement, mais reste vague sur son origine.
Je reconnais que j'ai été arrêté en détention de cette arme. C'est un de mes amis qui avait été poursuivi par la patrouille qui l'avait laissé tomber et je l'avais récupéré avec l'intention de la restituer.
Parmi les armes présentées à la presse les deux dernières semaines figure une arme professionnelle PKM pour l'origine. Le maire n'exclut pas la possibilité que ces armes proviendraient du stock des FARDC mal gérés. Le commissaire supérieur principal, Capin de Commande Faustin.
Cette arme qui devrait être au front, cela nous interpelle en tant que responsables de différentes unités, la gestion de matériel de guerre. Comment c'est sorti dans un magasin d'armement pour se retrouver entre les mains des bandits armés? Et ces armes pouvaient prendre la direction de la zone ennemis avec des caisses de munitions que vous venez de voir ici.
Rappelons que plus de 200 armes détenues illégalement sont déjà saisies dans le cadre de l'opération Safi Chamudju à Goma. Les victimes de ces armes se comptent déjà par milliers dans la ville. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Au chapitre de l'éducation, à Goma, les cours n'ont pas repris ce lundi dans la majorité des écoles du secteur public. Les élèves qui se sont rendus dans les écoles ce matin sont retournés à la maison, les enseignants ne s'étant pas présentés. Ces derniers continuent d'attendre la réponse à leurs revendications, celle de voir l'enseignant le moins payé toucher 500 dollars américains, soit 1 500 000 francs congolais. Inosa Baala Chamavu de l'intersyndicale des enseignants du Nord Kivu qui confirme que les cours n'ont pas repris, estime que le gouvernement ferait mieux de répondre à la demande des enseignants afin de sauver cette année scolaire dont le calendrier est déjà perturbé avec plus ou moins 2 mois perdus. Entre-temps, les cours ont repris ce lundi dans les écoles publiques de la ville de Beni. Cela fait suite à l'appel du CIECO de lever la grève des enseignants pour ne pas pénaliser les élèves. Les bleus et blancs ont été vus ce matin dans les établissements publics, mais en effectif réduit. Cette reprise représente une satisfaction pour les parents et leurs enfants. Cependant, la situation reste différente dans certaines régions, notamment dans les secteurs de Rwenzori. Guylaine Kassassia a visité certaines écoles de la ville de Beni. Voici son reportage.
Dans les écoles primaires publiques que nous avons visitées ce lundi matin, enseignants et élèves étaient présents. C'est le cas des écoles primaires Mundinda, Tamende, Sejan, Kilewe, Mbene et de l'école primaire d'application de Beni. À l'EPA Kilewe, par exemple, les élèves étaient rassemblés dans une salle de classe pour chaque degré, car certains parents hésitaient encore à envoyer leurs enfants à cette première journée. Samuel Cartas, enseignant en sixième année, explique.
Je suis devant moi une trentaine d'écoliers avec qui je suis en train de m'entretenir, surtout en les sensibilisant d'aller transmettre ces messages à leurs camarades pour qu'ils puissent revenir aussi demain. Nous avons réuni les peu d'enfants par classe.
Certains élèves étaient heureux de retrouver leurs camarades et de guetter des cœurs pour la plupart d'entre eux de suivre le cours avec assiduité compte tenu du retard accusé. Élise Kakule Kalimeko, élève de la sixième année, témoigne.
Je vais suivre le cours avec courage parce que nous sommes en retard et surtout que nous sommes les finalistes.
Dans les territoires de Beni, bien que le cours est repris dans la sous-division éducationnelle de Ouija et dans une partie de celle de Kiondo, les activités scolaires restent suspendues dans la sous-division de Boulongo. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
À Anituri, les activités ont repris ce lundi timidement dans plus de 150 écoles primaires publiques dans les territoires de Mambasa. Nous sommes à 165 km au sud-ouest de Bounia. C'est en application de la levée de la grève par leur syndicat national après la rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Cependant, les enseignants plaident pour la suppression immédiate de la zone salariale en vue d'améliorer leurs conditions de vie. À Bounia, Isaac Raymond.
À Mambasa Centre, les enseignants ont repris le chemin de l'école ce lundi matin après une semaine de grève. Cette mesure a été prise à l'issue d'une assemblée générale tenue dimanche à Mambasa Centre, a déclaré le sous-préfet de Mambasa 1. Cependant, il n'y a pas eu d'engouement du côté des élèves, précise le syndicat des enseignants des écoles primaires publiques de cette entité. Ces derniers sensibilisent les parents à dépêcher leurs enfants pour la reprise effective des cours ce mardi sur toute l'étendue du territoire. Cependant, la plupart d'enseignants disent avoir repris les activités sur base des promesses faites par leur hiérarchie, notamment la suppression de la zone salariale et la majoration de leur salaire pour l'exercice budgétaire 2025. Pour les syndicats locaux, le gouvernement doit mettre fin immédiatement à l'écart des primes de gratuité qui affectent surtout les enseignants de Mambasa, classés dans la troisième zone salariale. Ils comptent également sur la bonne foi du gouvernement pour l'amélioration de leur enveloppe salariale. Signalons que plusieurs écoles primaires publiques en Ituri n'ont pas observé ces mouvements de grève. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Vous le savez certainement, plusieurs dégâts ont été enregistrés par la population quinoise après la pluie qui s'est abattue samedi matin sur la capitale congolaise. Dans la commune de Kalamu, sur la route Elengesa par exemple, l'eau de la rivière Kalamu avait quitté son lit et avait inondé les maisons des riverains et plusieurs biens ont été perdus. À cet effet, les habitants de ces coins lancent un cri d'alarme et demandent le curage des rivières et des caniveaux afin que pareille situation ne se reproduise. Un reportage signé John Chibwabwa et Plamedi Mbiyavanga.
Samedi dernier, la ville de Kinshasa s'était réveillée sous de fortes inondations, causant en leur passage la perte des biens, comme expliquent ses habitants de la commune de Kalamu.
C'était un scandale, l'eau avait inondé les maisons des gens, endommagé des biens et il n'y a pas moyen de passer ou de vendre depuis la nuit de samedi jusqu'aujourd'hui, rien de bon.
Il y a eu une grande inondation et les immondices ont rempli le pont.
Ces femmes plaident pour les curages de la rivière Kalamu au niveau du pont Nguza entre les communes d'Ingiringiri et Makala.
Le projet de la construction de ce pont n'est pas prêt. Qu'on vienne curer la rivière Kalamu, qu'on enlève toute cette saleté qui empêche l'eau de bien passer.
Qu'on trouve une solution pour le pont Nguza, nous ne pouvons pas vivre dans ces conditions.
Notons que les inondations de cette pluie ont causé la mort d'un enfant de 2 ans dans la commune de Makala.
Actualité internationale.
Au Mali, le bilan des inondations atteint les 84 morts. Selon le nouveau communiqué du comité interministériel des gestions des crises et des catastrophes publié durant ce week-end, près de 350 000 personnes sont désormais officiellement déclarées sinistrées par les autorités maliennes de transition, alors que les prévisions météorologiques restent préoccupantes.
L'invité.
Il s'appelle Jean Kiato, commissaire lacustre à Kalemi. Il revient sur les conditions de la navigation sur le lac Tanganyika. Rappelons qu'il y a des mesures qui ont été prises par les autorités provinciales pour sécuriser les passagers et prévenir d'éventuels naufrages sur le lac Tanganyika. Jean Kiato s'entretient depuis Kalemi avec Paul Emunanga.
Monsieur Jean Kiato, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Comment se fait la réglementation de la navigation sur les lacs Tanganyika?
Nous avons plus ou moins trois réglementations, ou quatre même. Première réglementation, nous devons réglementer les bateaux. Les bateaux doivent être armés, les bateaux doivent avoir ces documents sécuritaires. Deuxième réglementation, nous avons la réglementation du personnel navigant. Chaque personnel navigant doit être justifié, ayant son document, justifiant sa carrière. Troisième réglementation, nous avons une réglementation des passagers. Parler des passagers, c'est là où nous trouvons maintenant les gilets, les bouées de sauvetage. On réglemente les passagers et on donne aux passagers la réglementation de gilets et des bouées de sauvetage. Et enfin, c'est l'arrimage. L'arrimage, c'est dans le cadre des chargements. Chargement d'un bateau. Comment on doit charger un bateau? Comment on doit mettre les objets dans les bateaux?
Et vous venez de dire que les bateaux doivent être armés, c'est-à-dire quoi?
Oui, les bateaux doivent être armés. C'est pourquoi on appelle armateur. Armateur vient du mot armé. Armé, c'est-à-dire c'est équipé. On a toujours dit, même dans l'armée, que armement. C'est-à-dire on est bien équipé. Un armateur doit armer son bateau, doit équiper son bateau. Si le bateau n'est pas du tout équipé, il n'est pas à la hauteur de faire la navigation. Équiper un bateau, ou bien armer un bateau, c'est mettre tout en œuvre les canons de sauvetage, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les documents de sécurité, y compris même les personnels spécialisés.
Oui, à plusieurs reprises, les autorités au niveau national et même provincial ont pris des mesures pour sécuriser les passagers qui voyagent au bord d'un bateau, notamment les ports des gilets de sauvetage. Est-ce que cette mesure est d'application ici à Calémie?
Exactement, monsieur les journalistes. Moi, je crois bien que c'est une réglementation qui date de longtemps. Mais par quelque part la négligence, si moi-même je peux utiliser ces mots-là. Présentement, moi, je vous parle, la réglementation est de rigueur. Un armateur qui a son bateau et qui n'a pas tout ce que nous venons de citer ici, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les canons de sauvetage, je crois bien qu'il va trouver des crocs en jambes dans ce service. Malgré être un petit bateau ou être un grand bateau, donc l'armement du bateau est obligatoire.
S'il y a trois gilets de sauvetage seulement?
Exactement, tu peux avoir trois gilets de sauvetage, donc tu as besoin de trois passagers. On ne va pas te refuser. Tu as la marchandise et tu as tes trois passagers. Tu les donnes les gilets de sauvetage et c'est tout. Vous voyagez. Tu peux avoir trois gilets que tu as besoin de 1000 personnes ou bien de 500 personnes. Non, non. Tu as la cargaison, tu as la marchandise et tu as les trois passagers. Tu les donnes les gilets de sauvetage. Et d'ailleurs, ça, je peux toutefois dire que les bateaux dont nous avons ici, la plupart, ce sont des bateaux mixtes. Si tu n'as pas le passager, que tu as la marchandise, transportez seulement la marchandise. Et si vous avez maintenant le passager, complétez le nombre des gilets aux passagers et c'est tout.
En rapport avec la charge du bateau, comment est-ce que vous contrôlez cela?
La charge du bateau, mon ami, c'est facile à contrôler. Nous sommes techniciens.
Souvent, il y a des naufrages dus à la surcharge.
Le naufrage n'est pas seulement dû aux surcharges. Il y a le critère qui peuvent bien justifier les naufrages. Nous avons le pourquoi des marques de flambord. Le marque de flambord se calcule conformément au calcul Veritas, conformément au déplacement de la quantité d'eau déplacée par le bateau. Alors, la flottaison d'un bateau, dès que nous avons la ligne de flottaison, c'est l'autorisation maximale de chargement ou d'enfoncement d'un bateau. On ne peut pas surpasser cette marge-là. On ne peut pas surpasser. C'est la marque de flambeau. C'est pourquoi vous avez toujours vu peut-être un bateau qui quitte aujourd'hui. Il fait tellement calme. Arrivé en cours de navigation, il vente. Le bateau va défendre. Nous avions traversé des tempêtes, mais nous sommes arrivés. Ils sont arrivés comment? C'est parce que la mesure ou la ligne de flottaison, la ligne maximale autorisée, est respectée.
Mais dernièrement, il y a eu un bateau motorisé qui a fait naufrage tout près du pont Lukuga. Mais on a constaté que les passagers n'avaient pas de gilets de sauvetage. Comment expliquer cela?
Les pêcheurs là qui ont quitté Moba avec leurs petits bateaux à destination de Calémie. Premièrement, ce sont des fraudeurs. Ils ont quitté nuitamment Moba à 20h. Il a embarqué les passagers clandestinement. Il a embarqué la marchandise clandestinement. Et il est sorti clandestinement, sans autorisation du ministère de Transport.
Monsieur Jean Kiato, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Le commissaire lacustre à Calémie était avec Paulin Munanga. C'est la fin de ce journal, coordonné par Jude Mister Bilanda et supervisé par Pele Kipelamondo. Devs Vita a assuré la mise en onde. Merci de l'avoir écouté et de les retrouver sur www.radiokapi.net. La suite d'Okapi Soir, c'est avec Stanislas Diomi.